Radio Prévert
105.9.
Alors bonjour, bienvenue sur Radio Prévert 105.9. Donc aujourd'hui, on reçoit pour la deuxième session Emma Fructidor, l'école Média Art de Chalon-sur-Saône, donc pour la deuxième session de son workshop de cette année. Donc je passe la parole à Fanny.
Bonjour Jérémy, bonjour Chalon, bonjour à tous.
Bonjour.
Donc, bonjour. Hey.
Voilà, je suis avec 7 Emmaciens, petit groupe, pour cette deuxième session de mai 2015. À nouveau, 2 jours de travail très intense avec une programmation orientée sur de belles choses, un petit peu plus de musique, des jingles. Voilà, donc je vais vous laisser la parole et merci à tous pour votre investissement.
Merci beaucoup.
Alors, les deux chroniqueurs sont Ambroise et
Bonjour,
Pauline.
Je suis Ambroise.
Je suis Pauline. Et nous allons tout de suite commencer par Red Alert de Vincent, donc un élève de notre classe DMA1.
Ce que vous venez d'entendre, vous l'avez reconnu, c'est bien sûr le générique de Lost, où tous les acteurs, tous les personnages sont coincés sur une île. Et sur cette île, il y a quelque chose qui est, on va dire, étrange, mais qui est aussi très très fascinant, c'est le nombre. Vous vous souvenez qu'à un moment, John Locke découvre un bunker, et il y a un ordinateur, et des nombres sont joués en permanence sur cet ordinateur. Il faut les rentrer pour, soi-disant, que l'île n'explose pas. Et ces nombres, 4, 8, 15, 16, 23, 42. Ces nombres sont vraiment très intéressants, et je pense que J.J. Abrams s'est inspiré des stations de nombres.
Seigneur, Seigneur.
Dire que les stations de nombre sont connues depuis 1914. C'est en fait quelque chose qui se passe sur la radio, mais pas sur les ondes FM, sur les ondes AM. Alors vous pouvez tomber dessus à tout moment. La station de nombre débute avec un petit jingle et vous pouvez entendre ainsi une suite de nombres plus ou moins grandes dans toutes les langues différentes. Il y en existe plusieurs par pays. Il y a aussi une radio de nombre qui est espagnole, qui commence toujours par Atención, Atención. C'est à peu près le jingle, on entend aussi des bruits blancs, mais sur cette radio espagnole, il n'y a pas que des nombres décrits en espagnol. C'est, on va dire, le principe de ces radios de nombre. D'aucuns disent que ce sont des dialogues entre des espions, entre la mafia, mais ça n'a pas été vraiment découvert, sauf pour qui était faite pendant la guerre froide. Et les Russes ont vraiment reconnu que c'était pour leurs espions qui ont reconnu que c'était pour faire passer des informations sans que les Américains ne les interceptent. Alors il y a une autre série qui est tout aussi intéressante pour les stations de nombre. C'est Fringe. Fringe, c'est une série personnellement que j'ai connue à partir de la saison 3, mais elle m'a tellement intéressée que j'ai décidé de la regarder en entier et j'ai littéralement dévoré tous les épisodes. Mais enfin, Fringe a un épisode qui nous parle des stations de nombre. Alors, c'est dans la saison 3, l'épisode 6, qui s'appelle Fréquence Pirate. Alors, je vous lis un peu le pitch. Une quinzaine de radioamateurs perdent simultanément la mémoire sans raison apparente en écoutant une suite de nombres diffusée sur une fréquence pirate. Et le savant fou, Walter, essaye de déchiffrer tout cela, parce qu'il s'agit d'un code, bien sûr. Un code très important. Donc je vais vous passer un extrait de Fringe, où vous pourrez écouter une station de nombre, une petite partie de l'histoire.
Et donc apparemment, Becky aurait enregistré le programme d'hier, ce qu'elle a entendu est normalement sur cette bande.
Oui, mais l'écoute de ce qu'elle a enregistré hier soir peut à notre tour nous faire oublier ce qu'on voulait précisément écouter, mon cher Einstein. Elle écoutait quoi, selon lui ?
Il dit qu'elle passe ses soirées à écouter des suites de chiffres sur des fréquences amateurs. Elle essaie de décrypter un code.
Des stations de nombre ?
Ça vous dit quelque chose ?
Les stations de nombre. On ne sait pas ce qu'elles sont vraiment et on ne sait pas d'où elles émettent. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que les voix qui débitent ces suites de chiffres aléatoires dans une variété de langues étrangères sont générées par ordinateur. Le département de la Défense nous avait commandé une enquête, et si on a appris que le phénomène remontait à 70 ans, nous ne sommes pas plus avancés. Impossible de localiser l'émetteur d'origine. Cet enregistrement date de 4 ans. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de communications cryptées entre espions ou trafiquants de drogue. Le problème, c'est que personne n'a jamais pu apporter la moindre preuve allant dans ce sens, et donc pour l'instant, le mystère demeure.
Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est en fait l'histoire d'une femme et de nombreuses personnes qui, à la suite de l'écoute d'une radio de nombre, se sont évanouies et ont perdu leur mémoire. Bien sûr, les radios de nombre que vous pouvez écouter chez vous ne vont pas vous faire perdre la mémoire. Non, ils vont juste vous faire perdre un peu de temps si vous décidez de les décoder. Mais ne vous en faites pas, vous saurez toujours qui vous êtes à la fin. Toujours sur Fringe, quelque chose de très, très, très intéressant. C'est toute la théorie qui se déroule autour des univers parallèles. Par exemple, l'épisode 17 de la saison 3, Passagers clandestins. Alors, le pitch, c'est que Olivia, son âme, elle a été transférée ailleurs et que William Bell, un autre scientifique, ami de Walter, est entré dans le corps d'Olivia par des aimants spirituels. Et ce qui est intéressant, c'est que ces aimants vibrent à une certaine fréquence. Parce qu'il y a deux mondes vibrent à des fréquences différentes. Notre monde vibre en mi mineur et l'autre monde vibre en sol. Donc, ils expliquent en fait une théorie, la théorie des cordes. C'est le fait que dans les atomes, dans les plus petites parties des atomes, à l'intérieur des noyaux, cellules des atomes, comme on pourrait dire, sont faites de petites cordes qui vibrent pour créer un espace-temps. Et plusieurs espaces-temps, plusieurs dimensions pourraient se mettre les unes sur les autres. Et en vibrant, on pourrait justement accéder à un autre monde. Alors maintenant, je vais vous passer un petit extrait de cet épisode de Fringe. Très très intéressant. I want a three-car escort, half a mile buffer zone, all the way to Boston.
What? These look familiar. Familiar how? I don't know yet. Minor. It's pretty.
That was Astrid, Olivia's back.
She's what?
Apparently she crossed over into your father's land. Astrid's with her. They're in an ambulance on their way to Boston General.
Why Boston General? Is she okay?
They think she had some kind of seizure.
Right, I'm going to see Olivia.
Here.
Walter, just
no. I remember why this is familiar. That mnemonic rods. Like Belly and I used to use to help objects cross between universes. And this was found in their Olivia's bag.
Yes.
Alors le son que vous venez d'entendre qui est assez aigu, c'est donc le mi mineur. Dire qu'une fausse Olivia est arrivée dans notre monde, et pour retourner dans le sien, elle se fait vibrer littéralement au sol, donc à la fréquence sol, et du coup elle arrive à retourner dans son monde parce qu'elle ne vibre plus à la même fréquence que le nôtre. Donc voilà, une petite explication avec des séries de sujets tous intéressants. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus pour par exemple la théorie des cordes, d'aller voir la chaîne YouTube de Y Penser, très très intéressant. Et pour les stations de nombre, n'hésitez pas à aller voir le blog de Axolot pour les stations de nombre. Il y a aussi plein d'autres informations croustillantes. Merci beaucoup.
Thank you. Now, here comes the music.
Do I look bothered?
Oh, you are awful, but I like you.
Hello?
Hey, Rach, it's Danny. I'm sorry to wake you up, babe. I couldn't sleep, so I took a walk. But I locked myself out. I didn't take my keys. Could you come around and unlock the door?
Bonjour, on est toujours sur Radio Emma Fructidor d'Or, enfin Radio Prévert, c'est toujours Emma Fructidor d'Or et on va enchaîner sur la chronique du jeu vidéo que je vous présente. Et aujourd'hui on va parler de jeux vidéo indépendants. Bon, les jeux vidéo, vous connaissez tous, Mario, Sonic, Final Fantasy ou même World of Warcraft, tant de jeux vidéo, tant de noms qui résonnent à vos oreilles, apportant leur lot d'images, de pensées propres à chacun. Mais connaissez-vous vraiment ce que c'est le jeu vidéo ? Ou est-ce que ces grands jeux vous donnent-ils une vague idée de ce que c'est, hein ? Eh bien voilà, et c'est là où j'introduis le jeu vidéo indépendant. Alors, le jeu vidéo indépendant, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le jeu vidéo indépendant est... C'est un jeu développé par une équipe qui conserve son indépendance de créativité, ce qui va souvent sans le support financier d'une entreprise d'édition. En gros, c'est une œuvre qui ne subit aucune retouche de la part de quelque organisme qui soit, c'est-à-dire aucune censure, rien. Et c'est là où on pointe du doigt ces fameuses sociétés en criant « voleur, morte-couille, ça ouvre !» Car en fait... En proposant de l'argent à ses producteurs, imposent leur petit diktat de façon à mettre la censure, de façon à ce que le jeu plaise mieux aux spectateurs, et de façon à rembourser finalement leur argent, à en gagner plus. Mais après tout, le jeu vidéo, vous allez me dire, indépendant n'est pas si pauvre que ça. En effet, il y a certaines aides. Par exemple, en 2000... il y a eu les plateformes de support dématérialisé de jeux vidéo, comme par exemple on peut citer Steam, qui ont fait leurs apparitions, qui sont devenues de plus en plus puissantes, c'est-à-dire des jeux vidéo en ligne, téléchargeables, payantes. Mais donc du coup, ça évite des frais tels que les boîtes ou même les CD, ce qui aide considérablement. Mais il y a aussi, par exemple, en France, une bourse qui vient directement du CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, qui permet aux jeux vidéo indépendants de toucher jusqu'à 50% du budget demandé. voilà. Mais pour en revenir, voilà. Le jeu vidéo indépendant va au-delà des limites du jeu vidéo tel qu'on le connaît. C'est-à-dire, par exemple, dans le jeu The Legend of Zelda, le but tout simple est de taper des monstres avec une épée, en gros. C'est simplement que le scénario, au fil des séries, est remasterisé, remodelé de façon à être plus intrigant. Il y a des énigmes entre deux combats. D'un coup, le spectateur est moins lassé de la chose. C'est assez intéressant, c'est même palpitant, mais est-ce que c'est ça le jeu vidéo? Est-ce que le jeu vidéo doit ne pas s'interroger sur ce qu'il est? Et c'est là où vont les jeux vidéo indépendants. C'est-à-dire qu'ils se posent la question, qu'est-ce qu'un jeu vidéo? On peut donc citer par exemple des très beaux jeux comme Journey, un jeu... Je vois des fans, attends. On peut citer Journey, un jeu vidéo indépendant sponsorisé par Sony, qui n'a imposé aucune règle, en fait, c'est l'histoire tout simplement d'une journée, d'un voyage où un extraterrestre, on ne sait pas trop, encapuchonné, se déplace à travers les cimetières pour atteindre une sorte de montagne à la recherche d'une certaine lumière. Le jeu est fantastique au niveau des graphismes, des jeux de lumière, des plans, de la musique. À une ambiance très tibétaine, on est plongé dans cet univers très paisible, très calme, sans aucun combat. Et c'est là où le jeu vidéo perce, en fait, finalement. Parce qu'on se rend compte que, est-ce qu'on a besoin de combat pour suivre un jeu vidéo? Est-ce qu'on a besoin, finalement, de vivre une histoire réelle? Est-ce qu'on a besoin que tout soit montré? Ou est-ce que ça doit être métaphorique? Est-ce que, justement... Est-ce que le jeu vidéo doit apporter une matière à réfléchir? Donc, parmi les grands jeux vidéo indépendants, on peut citer The Long Dark, là aussi il y a des fans, qui est un jeu de survie, cette fois-ci plutôt brutal, sans combat non plus, c'est une sorte de jeu de survie basique dans la neige, avec des graphismes très intéressants, comme du papier découpé, collé. C'est un univers assez spécial, mais pourtant, c'est fait pour un certain public, avec une certaine matière à réfléchir. Et voilà, c'est étendu, c'est un jeu fait pour un type de personne. Donc, Limbo, Bastion, Amnesia, Badlands, et aussi tellement d'autres. Tant de jeux vidéo uniques, par leur façon d'être, tant de jeux qui ont, par la volonté de leur créateur, ont pu voir le jour sans modification. Et c'est finalement par cette pureté de jeu et d'esprit que l'expérience et la liberté se forment pour dégager une part artistique forte. C'est les jeux vidéo et leur liberté. D'ailleurs, comme le dit notre cher Albert Camus, la liberté n'est rien d'autre qu'une chance de devenir meilleur.
écriture automatique. Onde, propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible. Avec la multiplication des ondes venant du Wi-Fi et des téléphones portables, la question de leurs impacts. Propagation de ces ondes s'effectue à une vitesse qui dépend du milieu considéré, dans le vide. Génie des eaux, dans la mythologie germaine. Jeune fille d'une grande beauté qui vive non seulement. Ondine, Giraudoux, littérature, théâtre de la Nyx, qui cherche à s'incarner dans l'humain, est un topos du conte merveilleux. Onde radio, le débat au Sénat renvoyé aux calendes grecques. Les militants fulminent. Les ondes lumineuses, avec la mécanique céleste, l'astronomie. Vous avez déjà jeté un caillou dans l'eau, j'imagine.
C'est pour des histoires d'historique pas trop compréhensibles.
Zeno Levé sortait du Witch Shop, fier de son nouvel arme tatou, qu'elle avait repéré dans le Q Magazine, mais c'était insuffisant. Elle alla donc voir Sandrine Josson. Assis sur son banc de jardin, elle parlait d'une affiche de chaise avec Caroline Scott, elles envisageaient de la plaquer sur la lune, je leur conseilla donc de demander de l'aide à Goalien, fils indigne de Richard Serra. Pour le trouver, il fallait traverser le cap Vanikivanga, longer les fresques oranges, au bout de cela, se trouvera Gel en mode hip-hop ghetto, il lui sera en train d'apprendre à Youn fout donc tous les frises de hip-hop, nos amis avalèrent donc un buvard de LSD, et se mirent en marche, ils parlèrent esprit composite et Xbox Live tout le long, quand soudain un nuage nucléaire se rua sur eux, ce n'était que l'effet d'Hitler et son discours en allemand. Marx Moll et Venenes Kroka n'étaient donc pas vraiment derrière tout ça.
Mademoiselle K venait de sortir de son lieu de travail, X, le journal du Hard. À ce moment, elle développait un fond à motif, avec un masque de loi imprimé. Soudain elle se demanda qu'est-ce que le réel ? Blabla, répondit Jessica Stockholder. Elle devait se rendre au vernissage du musée Niépce de Chalon-sur-Saône. Une recherche approfondie sur son iPhone 6 Plus taille réelle du Chalon Centre Plan lui indiqua la direction. C'était un symbole de flèche que suivait un homme qui marche blasé. Un symbole était taillé dans ses barbes à l'aide d'un rasoir brossixtant, rappelant un certain logo de téléphone. Il fuyait son patron de manche qui le harcelait pour un cinoche, ce relou. En fait, ce dernier avait repéré sur Allociné le film Tuile de Rive Omega 10. Mais ce n'était pas un film pour W, qui opta pour une vidéo sur YouTube, très populaire sur Google Actualité. Pendant ce temps, un dirigeant de la Corée du Nord rancunier venait également de pirater son compte Outlook pour envoyer des photos explicites de nuages à Elise Bouton. Quand Azim Brahel était invité à dîner par le PDG du buvet de W, le restaurant des Champs-Élysées.
Oh,
Now, here comes the music.
Do I look bothered?
Ooh, you are awful, but I like you.
J'ai pas internet, j'ai pas de téléphone, j'ai rien du tout. Je vais voir comment je vais pouvoir vivre sans tout ça. Je trouvais les premiers jours assez longs. Et je me demandais quand j'allais avoir mon ordinateur, mon téléphone, parce que je me disais, premier jour ça va, deuxième jour ça commence à se corser, et troisième jour ça allait pas du tout. J'étais dans la chambre, je commençais à réfléchir. Je me disais, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mes deux semaines complètes là, vides, sans rien du tout. J'ai commencé à discuter, etc. Et j'en ai parlé à ma mère, j'ai dit, maman, je vais faire sans mon ordinateur, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de tout ce contact réseau, enfin surtout pendant les vacances, surtout qu'on veut contacter des amis, et là c'était complètement impossible. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Et du coup, ma mère m'a dit, bah écoute, t'as te coupé un peu du monde et toutes ces choses un peu technologiques, faut arrêter, faut se calmer un peu. Même si ma mère me disait ça, moi j'avais toujours ce manque, des fois je restais pendant 2 heures comme ça sans rien faire. Je me disais, si j'allais pas rentrer ici. Mais j'étais tellement, pas déçue, mais j'étais tellement énervée au fond de moi de pas avoir ces choses-là.
Ça te frustrait?
Ça me frustrait, j'étais énervée, je voulais pas peindre, je voulais rien faire que être...
Tu te sentais dépossédée?
Ouais, je voulais vraiment, pourtant j'aime beaucoup la peinture, je crois que je voulais juste discuter en fait, simplement. Et
t'avais besoin de passer par internet, par ton téléphone pour discuter avec les gens?
Ouais. Parce que je suis un peu née là-dedans. Du coup, dans ma tête, j'avais l'impression que c'était voilà, internet. À l'époque, j'étais geek, etc. Non, mais vraiment, parce que j'avais la phobie des chiens et du coup, je sortais plus de chez moi. J'avais vraiment que le biais d'internet pour pouvoir extérioriser tout ça. Et du coup, depuis mes 13 ans jusqu'à 16 ans, j'étais que scotché à mon ordinateur. Je sortais pas, je voulais pas faire de vacances. Même le parc en face de chez moi, je ne pouvais pas y aller. Parce que voilà, j'avais la phobie des chiens et j'étais traumatisée. Donc, j'avais qu'Internet pour me sauver. Et même s'il faisait super beau, un super beau soleil, je pouvais pas. Je restais sur mes jeux jusqu'à 5h, 6h du matin. Je dormais pas. Des fois, je me réveillais jusqu'à 20h.
Des jeux en réseau?
Ouais, des jeux en réseau tout le temps. Ça m'a entraîné un peu là-dedans.
Donc ça t'a replongé dans cette période-là, dans son adolescence?
Ouais, ça m'a replongé et je me disais, c'était un peu grâce à ça que j'ai un peu évolué, juste un petit peu. Et là, d'un coup, me dire que j'avais tout ça, d'un coup, c'est coupé d'être face à moi-même. J'en ai pleuré, hein, vraiment. J'étais dans la chambre, j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire sans ces choses-là. Pourtant, je sais que... Au fond de moi, je sais très bien que c'est pas ces choses-là qui m'ont fait réussir dans la vie. C'était pendant vraiment 4 heures, j'étais assis devant un arbre et je faisais complètement rien. J'avais mes pensées, des fois je remémorais des souvenirs que j'avais carrément oubliés. Je me disais oui, j'ai pris du recul en fait. Et j'ai pris conscience que même si j'ai subi ça et que j'ai pas voulu subir d'un coup tout coupé du monde, mais d'un côté ça m'a appris en fait à me calmer, parce que je suis quelqu'un qui est très stressé déjà. Je suis quelqu'un qui stresse beaucoup pour rien, et de me dire d'être coupé de toutes ces ondes là d'un coup, ça m'a remis un peu dans la nature et d'être présent.
Donc finalement t'en tires quand même du positif?
Oui, quand même du positif. Comme je vous ai raconté, une fois je suis sortie dehors comme ça pour prendre l'air. Donc je suis sortie, je me suis baladée et je me sentais vraiment morte. À l'intérieur de moi, je me sentais morte. Je me suis dit, tout le monde est scotché à travers leur téléphone. Même si j'essayais de créer des liens avec des personnes, c'était impossible. Même dans un banc, là, impossible d'avoir un dialogue quoi, avec une personne simple.
Et si tu avais eu un téléphone allumé entre les mains, mais avec la volonté de pas rentrer dans ce monde virtuel, mais de rentrer en rapport, en dialogue avec eux, tu te serais sentie plus à l'aise?
Bah oui, si j'avais mon téléphone, je me sentirais d'un côté à l'aise, mais là, d'être vraiment confrontée, vraiment face à moi et la personne, c'était impossible pour moi. Je marchais dans la rue, j'étais l'impression d'être seule dans un autre monde, un espèce d'une personne qui est là, qui se dit où je suis. Vraiment, j'ai senti ça. Ça pleurait et tout, je me suis dit, ça devient n'importe quoi. Si je commence à en pleurer à cause des réseaux sociaux et des jeux,
Parce que du coup, tu sortais d'une virtualité,
à la réalité.
Dans une réalité, ouais. Qui te semblait irréelle.
J'ai ce besoin d'avoir ces choses technologiques à cause de mon passé. Et... Voilà.
En fait, c'est comme une drogue, limite.
Oui, c'est comme une drogue. Enfin, tout le temps, je suis sur Internet. Pour moi, c'est comme si ça m'a aidé dans cette période où j'étais mal, où je sortais pas de chez moi à cause de ma phobie qui était vraiment terrifiante. Où on n'avait pas vraiment de l'ampleur par cette phobie. On me disait, elle a peur des chiens, c'est pas grave, etc. Mais pour moi, c'était vraiment horrible. Des fois, je venais pas en cours parce que quand je croisais un chien, je faisais tout le tour de l'école pour pouvoir entrer en classe. Des fois, j'en ai 40 minutes en classe et j'en ai parlé au professeur. Et il était bon, il savait, mais qu'il fallait que des fois je me réveille une heure avant pour pouvoir aller en cours parce que j'avais peur qu'il y ait un chien que je croise.
Personne mesurait l'ampleur.
Ouais, personne disait un chien, parce que le chien, on dit toujours que le chien c'est le meilleur ami de l'homme. Rien d'avoir peur des chiens, etc. Mais pour moi c'était traumatisant et c'est pour ça que pendant 2 ans je sortais vraiment pas. Des fois on me disait, est-ce que t'es vraiment dans cette ville-là où... J'ai des personnes qui disaient, t'es de Chalon, t'es sûre de Chalon? Je dis, oui, je suis vraiment chalonnaise, je suis née ici. Enfin, on t'a jamais vu. Parce que je sortais pas. Au moins pendant 2 ans, je voyais pas la lumière du jour. Même si ma mère, des fois, me coupait Internet, je pétais des câbles, je disais non, remets vite Internet, ou je sors, ou je faisais ma crise d'Internet, quoi. Et c'est là qu'en grandissant, j'ai compris que. Même si à mon âge, je vais avoir 20 ans, et j'ai toujours besoin d'avoir l'ordinateur, mais moins qu'avant, quoi.
Et qu'est-ce que tu penses des personnes qui vivent dans des zones blanches? Pour toi, ça t'angoisse ou ça te...
D'un côté, je me dis qu'ils sont super courageux parce que j'ai vu un témoignage d'une jeune femme qui était lyonnaise, qui pour elle, c'était qu'elle avait des maux de tête, des fois, elle avait des pertes de connaissances, même si par le biais de son travail, elle était obligée d'avoir l'ordinateur. Et là, elle était obligée de tout quitter, elle était super malheureuse. Elle a déménagé autre part, mais elle dit je vais souvent bien pouvoir mon fils, c'est tout quoi. Enfin, je trouve ça comme les deux femmes qui ont vécu dans une cave. Enfin, je trouve ça. Même si pour moi, comme le maire qui a voulu enlever tout, enfin, toute la Wi-Fi, toutes ces ondes-là pour les personnes électrosensibles, je trouve ça super courageux. Après, moi, je serais divisée en fait. J'aurais été super. Parce que je suis quelqu'un qui est compatissant. Je dis c'est dommage pour ces personnes-là et tout. Pourquoi ils n'ont pas le droit de vivre? Et je me dis que la nature a le droit aussi d'avoir sa propre identité. Mais d'un côté, je me dis, si on coupe tout d'un coup comme ça, il n'y aura pas de futur en fait. Je me dis que pour moi, ce sera un retour en arrière et que le futur, il n'avancera jamais. C'est pour ça que je suis partagée entre mon émotion d'être compatible par les gens qui ont cette maladie-là et mon côté à moi qui me dit sans cette technologie, on ne sera jamais avancé. Et je ne pense pas que j'aurai une position
très divisée.
Et maintenant, je vais vous présenter les maisons bulles pour continuer sur le thème de la bulle. Alors, en ce moment même, la Maison Dior organise son défilé dans cette maison, dans cette incroyable maison qu'a racheté Pierre Cardin. Le créateur de l'architecte de cette maison est Antti Lovák, qui est un célèbre architecte hongrois, mort en septembre dernier. Cette maison, c'est la Maison Bulle. Elle a été construite vers la fin des années 60. Et cette maison, je vais vous la décrire, elle est couleur sable, c'est un amoncellement de petites bulles. Alors l'intérieur de la maison est complètement rond, comme vous pouvez l'imaginer, et tous les meubles sont homologués à cette maison. Il y a une très grande piscine, et c'est une très belle atmosphère.
Il y a des ouvertures ?
Oui, il y a beaucoup de fenêtres. C'est une maison très ouverte sur l'extérieur. Et voilà.
Elles sont faites comment, les fenêtres ?
Elles sont rondes, comme le reste de la maison.
Elles ressemblent un peu à des cloques.
Oui, ça ressemble un peu à des cloques.
Et la piscine, elle est de quelle forme, à peu près ?
Elle est ronde. On reste dans le thème. Ensuite, je voudrais vous présenter une deuxième maison. C'est la Futuro. Elle a été faite en 1968 par Matti Suuromäen. Il a voulu créer cette maison qui est en forme de soucoupe volante, comme une cabine de ski. Il dit lui-même qu'elle serait rapide à chauffer et facile à construire sur un terrain accidenté. Alors cette maison, elle ressemble vraiment à une soucoupe volante. Elle est ronde et sur des pieds. Et elle est très intéressante. Donc, dans ces années-là, elles étaient souvent de couleur beige, un peu passé, vert et rouge. Et voilà. Donc, c'était pour rester dans le thème de la bulle. Et,
l'enfermement.
De l'enfermement. De
l'isolement.
Mais pourtant...
Claustrophobie.
La claustrophobie, mais c'est quand même des maisons qui sont ouvertes sur l'extérieur.
Juste une question. C'est la maison en forme de soucoupe volante, est-ce qu'elle a une, comme un dôme en verre au-dessus?
Non, pas du tout. C'est, elle est complètement... en fait, c'est juste les vitres. Il y a des vitres autour, mais il n'y a pas du tout de dôme. C'est pas... Non, je vois laquelle tu veux dire, je crois, mais c'est pas elle.
D'accord.
Voilà.
Here comes the music.
Do I look bothered?
Ooh, you are awful. But I like you.
alors je fais de belles caresses à mon chat, parce que je l'aime. Je t'aime, Saigon. Alors, on va retourner un petit peu sur le sujet de l'enfermement, de la bulle. Je vais vous parler un petit peu des hikikomori. C'est des personnes japonaises, mais il me semble que le phénomène s'opère chez tout le monde, chez tous les êtres humains. C'est ces personnes qui s'enferment jour et nuit, des années durant, pour lire des mangas, pour jouer aux jeux vidéo. Et ils ne mangent plus, ils ne boivent plus. C'est généralement leurs parents, leurs proches, qui essaient de leur glisser de la nourriture. Sinon, ils se laisseraient dépérir. Ils vivent vraiment à travers le jeu vidéo, comme si c'était une drogue, comme si ils avaient été téléchargés dans l'internet. Et c'est devenu quelque chose de très 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 important pour eux. Et ils ne peuvent pas vivre sans, ils ne vivent pas sans internet. Voilà. Autrement, je vais enchaîner pour vous faire des petites expériences auditives. J'ai avec moi quelques comparses avec qui je vais essayer de faire avoir quelques petites choses. Déjà, autour de la table, est-ce que vous connaissez le phénomène de l'ASMR ?
Non.
Pas vraiment.
Non plus, non.
Eh bien, l'ASMR, je vais vous lire le titre en anglais, c'est Autonomous Sensory Meridian Response. Littéralement, réponse automatique des méridiens sensoriels. Bon, ça veut pas dire grand-chose, mais en général, je le traduis par orgasme du cerveau. Alors, il n'y a rien de sexuel là-dedans. C'est... ne vous en faites pas. C'est juste votre cerveau. Comme quand quelqu'un vous fait un massage sur le crâne ou avec l'espèce de petite méduse qu'on vous met sur le crâne pour faire un petit massage. Des petits picotements, des petits chatouillements qui après vont aller dans tout votre corps. Mais je le répète, rien de sexuel, c'est juste votre cerveau qui bug. Enfin, actuellement, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais on sait que c'est déclenché par certaines choses. La vue, mais vraiment l'ouïe, c'est ça qui est le plus important. Donc, j'ai eu plusieurs fois des expériences d'ASMR et je savais pas vraiment ce que c'était. Et pendant les vacances, là, je me suis dit, oh tiens, je vais écouter un petit peu l'original. Bon, je vais faire de la pub de Thomas Hercouet. C'est une petite radio internet sur SoundCloud qui est très très intéressante. Et il recevait Axolot, donc l'auteur c'est Patrick Beau. Et il parlait que lui, il avait eu une expérience d'ASMR tout à fait étrange. Il avait décrit exactement les mêmes sensations que j'avais ressenties. Donc, pour lui, il était la première fois au CDI. Et c'était une personne qui était très calme, la voix très posée, et qui lui chuchotait dans les oreilles. Et il a totalement bugué. Donc, il bavait littéralement. C'était vraiment un choc très très fort. Je sais que... généralement, on bave pas quand on a un ASMR, c'est... je sais pas, il doit être très 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 sensible. Donc je me suis dit, tiens, c'est grâce à la communauté internet déjà qu'ils ont réussi à déceler l'ASMR. Donc je me suis dit, ben, c'est génial, j'ai de l'ASMR. Surtout que j'ai vu, après, qu'il y avait que 30% des personnes qui pouvaient ressentir l'ASMR. Donc c'est vraiment très très sélectif. Alors j'aimerais bien essayer de vous essayer pour avoir de l'ASMR, quoi. Chez vous, dans votre petite radio, votre fauteuil, votre chat sur les genoux, ou alors en voiture. Bon, faut faire attention en voiture parce que ça déconnecte un petit peu le cerveau. Alors, très souvent, il y a un trigger, donc un déclencheur, c'est le fait de déballer quelque chose. Et j'ai avec moi, mes comparses l'ont vu depuis tout à l'heure, un paquet de bonbons oursons d'une marque que je ne citerai pas. Ils sont tous en train de se lécher les babines. Et donc, quelquefois... l'ASMR se déclenche juste à l'ouverture du sachet. Plusieurs orgasmes, j'ai aperçu, mais je pense qu'ils sont en train de baver principalement à cause des oursons. Donc je vais les faire passer, vous vous inquiétez pas si vous entendez des gens qui piaffent dans les micros, c'est un petit peu normal. Faites passer, faites tourner. Je vous en prie, je vous offre des petits...
Le piaffement, c'est un ASMR ?
Non, mais les chuchotements, les bruits de bouche, les claquements, les... ça peut produire des ASMR si on est très très concentré. Alors, bien sûr, ici, c'est très difficile d'avoir un ASMR, ou alors vous, à votre radio, parce que vous écoutez pas, sûrement pas avec un casque. Donc, le mieux, c'est en fait de trouver des vidéos sur Internet. Vous avez votre casque et vous pouvez vraiment écouter. Mais ce qu'il faut pour avoir un ASMR, pour essayer d'en avoir un, c'est être extrêmement concentré. Alors, je vais essayer de vous donner quelques triggers. Il y a les chuchotements. Alors ça, c'est... Je sais que personnellement, c'est quelque chose qui me fait à coup sûr avoir un ASMR quand je suis concentrée. Donc, quelqu'un qui pose sa voix, qui chuchote, qui est vraiment tranquille. Les soufflements et la respiration. Alors ça, je trouve ça un peu plus étrange, mais ça peut fonctionner. Enfin, généralement, je vous dirais, quand il y a les vidéos sur Internet... Les gens sont plus impressionnés par les femmes, généralement, qui présentent ça, donc l'apparence de la femme. Et bon, de vrais orgasmes, pas des ASMR. Donc là, je vous parle bien d'ASMR, donc faut écouter, faut pas vraiment regarder la personne. Hein. Il y a aussi Bob Ross. Alors ça, c'est vraiment, vraiment étrange. C'est un peintre des années 70 qui peignait en direct à la télévision. Alors il avait... Pareil, une voix très très posée, limite un chuchotement. Ça reprenait les principes de chuchotement d'ASMR dont je vous ai parlé. Mais il y avait aussi ses coups de pinceau brosse répétés sur sa toile. Et ça a fait jouir cérébralement de nombreuses personnes. Alors je sais que moi ça me fait juste rire. Parce qu'en fait, je regarde cet homme avec cette coupe afro et j'ai juste envie de rire. Parce que j'ai l'impression de voir un vieux film et je crois que la voiture va arriver, la voiture de Retour vers le futur. Donc je suis à deux doigts d'éclater rire et de me faire pipi dessus. Mais donc non, je ne regarde pas Bob Ross. Alors les bruits blancs, très très intéressant. Les bruits de machine. Alors... je sais pas si avec les alarmes que vous avez écoutées en début d'émission, ça vous a fait un petit ASMR.
Les
bruits de tombeuse. Oui, alors oui. Nous avons fait des recherches, donc effectivement, Vincent, si tu peux en parler, les bruits de tondeuse à gazon. Ah oui, excusez-nous, Vincent mange un petit ourson. Nous allons faire l'intermède piaffement.
Bah, sur YouTube, je suis tombé sur une communauté qui écoute des sons de tondeuse ou de sèche-cheveux ou de chasse d'eau pour s'endormir. Et... Je trouvais ça un peu bizarre. Hélène m'a dit que c'était des ASMR.
Ouais, on tombe généralement dessus par inadvertance. Et c'est vrai que nombre de vidéos absurdes sur le net sont devenues des endroits de recueillement de personnes qui ont l'ASMR. Il y a aussi des bruits de billes. Alors ça, j'ai essayé d'écouter, de me concentrer sur cette vidéo. Je vais vous dire, j'ai fait les tests hein, quand même pour essayer de vous donner un petit peu un exemple. Et... Ça ressemble à un oursin qui piaffe, si un ours... Donc c'est... Personnellement, ça ne fait pas grand-chose. Il y a les bruits de page. Alors, je sais que j'adore, mais c'est peut-être aussi parce que c'est lié dans ma mémoire avec l'odeur du livre et le fait que le livre est intéressant. Mais tourner des pages, j'ai pas encore eu d'ASMR dessus. Alors oui, les bruits blancs, le feu, l'avion et le train... Le train, oui. C'est vraiment quelque chose qui produise des ASMR assez fréquents, voire même des endormissements. C'est-à-dire que l'ASMR, en fait, c'est une détente extrême, donc beaucoup de gens s'endorment. Donc, par contre, les bruits de tondeuse à gazon, c'est quand même assez étrange. Et un des derniers triggers, c'est de regarder quelqu'un se concentrer. Alors, là, je comprends pas encore de trop, parce que c'est assez étrange, mais... Enfin, je sais que personnellement, les chuchotements, la respiration et les bruits blancs me font des ASMR. Donc peut-être pour ça que j'ai pas encore un avis très très développé dessus. Mais regarder quelqu'un se concentrer ou faire comme généralement c'est décrit une tâche chiante et très répétitive, ça peut produire des ASMR. Donc maintenant, je vais demander autour de la table, une fois que je vous ai décrit les symptômes, on va dire, de l'ASMR, est-ce que vous avez déjà ressenti des ASMR ?
Oui.
Bah oui, du coup.
Génial. Et en quelle occasion ? Avec quel bruit ? Dans quel contexte ?
Les bruits de train, éventuellement, et les paquets. Les paquets de bonbons.
J'aime moi, du coup, je sais pourquoi je m'endors à chaque fois que je monte dans une voiture.
Oui.
Et moi, dans un train.
Ouais, c'est vrai, le train aussi, ça me fait... Il n'y a plus personne.
Ouais. Bah, je m'étais dit aussi que pour le comme trigger le fait d'ouvrir un paquet d'oursons, comme je l'ai vu, je l'ai constaté tout à l'heure, il y a eu non seulement peut-être un effet d'ASMR, mais il y a eu aussi un effet de j'ai faim, j'ai la dalle. Et donc c'est plus peut-être un réflexe de Pavlov, peut-être. On sait qu'on va manger, on a faim, en plus c'est des petits bonbons, hein, on est content. On vous fait partager par radio le goût du bonbon. Onctueux. Onctueux, orange et gélatineux. Voilà.
Thank you.
Emma Fructidor sur Radio Prévert. Les morceaux que nous avons écoutés durant cette heure sont Gezafelstein Aleph, Moondog Theme, Mr. Bungle Chemical Marriage, Dalek Spiritual Healing et Boreal Pirates.
Voilà donc cette heure de live s'achève. Donc j'étais avec cet étudiant de l'Emma Fructidor sur Radio Prévert, que je remercie bien fort. Donc j'étais avec Vincent, Léane, Nawel, Mathieu, Louise, Ambroise et Pauline. Voilà, donc c'était la deuxième tentative de notre projet radio à l'Emma Fructidor. Un travail qui est assez condensé, donc nous avons seulement 2 jours de travail, avec une matinée qui est consacrée à de la discussion, à des débats, à des écoutes théoriques. Pour cette semaine-ci, nous avons écouté ce que nous avions fait le mois dernier. Et donc, on a seulement une après-midi et une matinée pour préparer cette heure de direct. Donc, c'est souvent, voilà, c'est très speed. C'est un exercice très intéressant où chacun peut développer des recherches de travail personnelles, plus ou moins personnelles. Donc, Radio Prévert nous fait le grand plaisir de nous accueillir et de nous permettre de nous exprimer. Donc, merci Jérémy.
De rien.
On était un petit groupe cette fois-ci. Voilà. Donc... Oui.
C'est pas grave. Pas grave du tout. On peut même venir à deux. C'est pas un souci.
Merci en tout cas. Et donc. Hélène
qui est pressée, qui a un but.
On espère pouvoir continuer donc le mois prochain et l'année prochaine. Et ensuite d'avoir une web radio des Beaux-Arts. Voilà, à tout bientôt, merci.
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 Je vous aime, amour, gloire et beauté.
Auréo.
Vincent, Lucas.
Radio Prévert. 105.9.